Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Vos réactions, vos commentaires, vos coups de cœur ou coups de gueule sur l'actualité de la semaine. Vous nous interpellez sur tous les sujets qui vous ont marqué. Vous êtes nombreux à souhaiter réagir à la démission hier soir du Premier ministre malien. On va d'ailleurs commencer avec ce sujet. Soumaïlou Boubey Maïga qui a donc décidé de jeter l'éponge. Alors oui, il était sur la sellette depuis un petit moment. Il y a eu cette motion de censure déposée en début de semaine par des députés de l'opposition, mais aussi de la majorité. Et visiblement, cette motion devait passer comme une lettre à la poste. Alors plutôt que d'avoir une certaine, on va dire, humiliation devant à l'Assemblée nationale devant les députés, eh bien Soumaïlou Boubey Maïga a préféré démissionner. Et Mama, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous saluez cette initiative. Vous êtes satisfait finalement de son départ?
Très satisfait du départ de ce Premier ministre, qui en réalité a totalement échoué sur tous les plans et son bilan est totalement rouge. Et donc aujourd'hui, la situation était à un niveau tel que son départ ne pouvait que décrisper un peu la situation.
Ouais. On peut comprendre que les députés de l'opposition demandent sa démission. On peut comprendre aussi que des leaders religieux musulmans réclament également sa démission. Mais là, au sein même de la majorité, que des députés décident de faire bloc avec l'opposition pour obtenir sa démission, son limogeage, c'est surprenant. C'est même la première fois dans l'histoire du Mali.
Oui, tout à fait. Maintenant, il faut suivre le reste des événements. Je pense que, en fait, c'est un jeu purement politique à ce niveau. Les députés de la majorité, en fait, veulent tout simplement faire une récupération du poste de Premier ministre, à mon avis. Mais ce qui n'est pas du tout gagné, mais ils se mettent derrière, en fait, l'intérêt du peuple malien pour justifier leurs actions. Mais les événements futurs nous en diront plus sur leurs intentions réelles.
Évidemment.
Sur le terrain.
On suivra de près les tractations, les négociations qui vont commencer très certainement dans la journée en vue d'un nouveau Premier ministre. Restez avec nous, Mama, on va prolonger le débat dans un instant. Je vous présente Ousmane qui nous appelle également de Bamako. Bonjour Ousmane.
Bonjour Juan.
Alors, êtes-vous satisfait comme Mama de la démission de Soumaïlou Boubey Maïga?
Quand on suit l'actualité malienne, on ne peut pas se satisfaire du départ, en tout cas pas totalement du départ de Soumaïlou Boubey Maïga, parce que ce n'est pas un problème de personne, la situation du Mali. Ça va au-delà. Et c'est vrai que le départ de Soumaïlou Boubey Maïga va permettre de décrisper un peu la situation, beaucoup d'ailleurs,
oui.
Parce que sur le front social, ça ne marchait pas. La sécurité aussi, ça ne marchait pas du tout, surtout après les événements de Koulogon le 1er janvier et de Ouagadougou le 23 mars. C'est vrai que la tension était très forte. Le départ de Soumaïlou va peut-être baisser la tension,
oui.
Mais tout dépendra du président de la République, de ce qu'il va faire.
Alors vous savez quoi, lundi on va prolonger le débat, puisque vous êtes nombreux à nous appeler de Bamako et on ne va pas consacrer la libre antenne uniquement à cette actualité, mais quel doit être le profil justement du futur Premier ministre, Mama?
À mon avis, le nouveau Premier ministre doit être un Premier ministre rassembleur et qui sera à l'écoute du peuple malien. Et forcément, il n'aura pas de résultat sans l'appui du président, qui doit aussi fournir des efforts pour l'assister. Afin que finalement on puisse résoudre les vraies préoccupations du peuple malien.
Les préoccupations sont sécuritaires, elles sont sociales, elles sont économiques. On a bien vu lors de la manifestation il y a 2 semaines, à l'appel de l'imam Mahmoud Diko, ces dizaines de milliers de personnes manifester, réclamer la démission désormais de l'ex-premier ministre. Mais les revendications, elles étaient claires, elles étaient multiples d'ailleurs. Ça allait de la charte de la vie maladie, à la crise scolaire, en passant évidemment par la situation sécuritaire. Ousmane, le profil idéal du futur Premier ministre malien ?
Je pense que Ibeka devra s'appuyer finalement sur son parti, le Rassemblement pour le Mali, parce que depuis 2013, depuis son accession au pouvoir, il a complètement boudé son parti. Et c'est ça, ça a posé un problème. Et si il y a eu la fronde contre Soumaïla Bouba et Maïga, c'est parce que la majorité présidentielle n'a jamais accepté que Soumaïla Bouba et Maïga ait été nommé président, oui. Alors que c'est la majorité qui...
Premier ministre.
Voilà. Alors que c'est la majorité qui s'attendait à cela.
Bien sûr, évidemment. Merci Ousmane et merci à Mama. Merci à tous les deux. Nous prolongerons le débat lundi, donc continuez à nous appeler au standard. On prend vos prénoms, numéro de téléphone et on vous rappellera évidemment pour le débat de lundi matin. Parlons du Gabon, où le gouvernement a décidé de suspendre la réforme des bourses d'études, réforme qui a suscité, vous le savez, une levée de boucliers. Les lycéens sont descendus à plusieurs reprises dans la rue pour manifester, pour exprimer leur colère. Et bien, finalement, le gouvernement a cédé face à la colère des lycéens. Johan, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous souhaitiez commenter justement cette décision du gouvernement. On vous écoute.
Ben, je pense, à mon avis, que quand le confort de l'homme s'accorde trop de largesse, à un moment donné, l'intelligence tourne le dos à la sagesse. C'est un gouvernement qui devrait bien penser ses décisions avant de les prononcer devant le grand public, parce que gouverner, c'est prévoir. Et on se rend compte, à travers de telles décisions, que c'est pas vraiment leur fort de pouvoir gouverner. Parce que ces personnes-là qui prennent de telles décisions, pour la plupart, sont issues des familles prolétaires. Il faut dire que beaucoup ont pu devenir ce qu'ils sont aujourd'hui par rapport au fait qu'ils ont bénéficié de ces bourses. Au-delà du fait qu'ils se sont retractés dans cette loi qui est, à mon avis, sanguinaire.
Alors, sanguinaire, attendez, Johan, n'employez pas non plus des mots sanguinaires, ça, le mot a un sens. Je rappelle la réforme tout de même, tout le monde ne l'a pas en tête. Le gouvernement voulait que seuls les élèves âgés au maximum de 19 ans et ayant obtenu au baccalauréat au moins une moyenne de 12 sur 20 puissent désormais obtenir une bourse. Seuls ces élèves-là et plus les autres. Avant, et donc maintenant, puisque la réforme est annulée, et reportée tout du moins, avant il suffisait d'avoir son baccalauréat pour prétendre à une bourse universitaire. Maintenant il faut avoir 19 ans au maximum et au moins 12 sur 20 au bac. La raison invoquée par le gouvernement, et j'aimerais vous entendre, Johan, sur ce point, c'était d'encourager les étudiants brillants. Nous n'allons pas encourager la médiocrité, disait le ministre de l'Éducation.
Moi, j'ai envie de comprendre qu'ils sont partis d'une bonne intention. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucun prérequis qui permette au final de pouvoir susciter cette excellence. Parce que quand vous allez dans nos établissements locaux, vous verrez que c'est impossible d'apprendre. Écoutez, moi, aujourd'hui, la définition que j'ai de l'école publique, c'est que c'est l'école des pauvres. Oui. À l'époque où moi, j'étais à l'école publique, il y avait des enfants de haut dignitaire du pays qui y étaient. Il y avait même des bonbons qui y étaient. Ça veut dire que l'école publique formait bien. À partir du moment où il n'y a plus d'enfants de dignitaire à l'école publique, ça veut dire que c'est les plus bons. Oui. C'est que eux, ils vont dans les écoles privées et les pauvres, ceux qui n'ont pas le choix, les fils de prolétaires restent là-bas.
Vous êtes en train de nous dire, Johan, pour aller vite, hein, malheureusement, nous n'avons que 20 minutes, que vu les conditions d'études, les conditions de travail, les conditions d'enseignement, il est quasiment impossible aujourd'hui d'avoir son bac déjà à 19 ans.
Non, c'est pas possible, parce que nous faisons des années scolaires entrecoupées, où les professeurs sont tout le temps en grève en train de revendiquer de meilleures conditions scolaires, et où les classes sont de mauvaise qualité, les effectifs sont pléthoriques, les enseignements sont vraiment dispensés avec beaucoup de légèreté. Oui. Et donc comment penser l'excellence dans ces conditions-là?
Évidemment. Donc difficile de remplir dans ces conditions les critères définis par le gouvernement. En tout cas, la réforme, elle est gelée. Visiblement, elle n'est pas enterrée, puisque le communiqué dit cette mesure ne sera pas applicable cette année, donc peut-être l'année prochaine. Affaire à suivre. Merci beaucoup à vous, Johan. Bonne journée à Libreville. 33 9 693 693 70. Moustapha nous a envoyé ses coordonnées sur le numéro WhatsApp de l'émission. Je vous le redonne d'ailleurs. 33 6 89 28 53 64. Moustapha est en Algérie. Il est dans la capitale. Il souhaitait témoigner. Bonjour Moustapha.
Bonjour Juan.
Vendredi, l'Algérie se prépare, comme c'est le cas tous les vendredis, absolument, depuis 9 semaines, à une nouvelle journée de manifestation. L'objectif est le même, obtenir le départ de tous les tenants du régime de l'ex-président Bouteflika. Vous souhaitez, Moustapha, que tous les responsables qui incarnent ce régime dégagent.
Absolument, absolument. On va dire pas tous, non, c'est presque impossible. Mais disons les symboles du régime, oui, absolument.
Et notamment les fameux 3B, comme on les appelle.
Non, pas seulement. Moi, je suis pas d'accord sur ce point, parce que ce n'est pas une question de personne, Juan. C'est une question d'institution. Moi, je dénonce ces institutions-là qui sont, à mon avis, sont illégitimes. Ça veut dire, pour que démissionne le président du Conseil constitutionnel pour être remplacé par son vice, cela, c'est pas une victoire. Ça veut rien dire, ça.
Ceux qui réclament la démission des 3B, donc Tayeb Belaïd, c'est fait, hein, président du Conseil constitutionnel, il a démissionné cette semaine. Démission également d'Abdelkader Ben Salah, qui est le chef de l'État par intérim, et le troisième B, Nourédine Bédoui, qui est le premier ministre. Vous dites qu'il faut aller plus loin. Sinon...
Mais ces démissions ne veulent absolument rien dire, parce que ils sont remplacés par des gens tout à fait comme eux. Ahmed Ouyaïa, l'ex-premier ministre, est parti, il a été remplacé par Bédoui, qui est le même, absolument. On devait garder Ouyaïa, et puis c'est tout, pourquoi ça? Alors, parce qu'aujourd'hui, on est dans une impasse juridique. À mon avis, on doit aller vers une nouvelle constitution, ce qu'on appelle la déclaration constitutionnelle, une constitution provisoire, en vertu de laquelle on va dissoudre le Parlement actuel, on va geler la Constitution actuelle, parce que la Constitution actuelle n'est pas reconnue par le peuple, parce que, premièrement, elle n'a pas été soumise à l'assentiment populaire, ni à un débat public. Donc, c'est une question qui a été faite en mesure des désirs de la bande mafieuse. Et pour le Parlement, c'est un Parlement qu'on ne reconnaît pas, parce que c'est un Parlement qui est venu suite à des élections truquées, comme le savent tous les Algériens.
Moustapha, voilà. En deux mots, Moustapha, et merci vraiment de nous avoir contactés. C'est toujours bien d'avoir évidemment des citoyens algériens sur place qui nous racontent comment ils vivent ces événements historiques. Moustapha, si rien ne change d'ici le début du mois de juillet, irez-vous voter à la présidentielle du 4 juillet?
Mais absolument pas. Absolument pas. Cette élection ne pourra pas avoir lieu. Tout le peuple va la boycotter. Mais vraiment, elle ne pourra pas avoir lieu. C'est impossible. Impossible. Bien. Moi, pour moi, personnellement, j'ai un petit appel à lancer, si vous permettez. Moi, je lance un appel à l'armée nationale pour qu'elle prenne les rênes du pouvoir et supervise cette période transitoire et nous garantir des élections libres. On ne peut pas avoir des élections ou une élection présidentielle libre dans le cadre d'un régime qu'on conteste.
Moustapha, je vous interromps. Je vous interromps. Merci en tout cas infiniment de nous avoir contactés. Bonne journée à Alger. 10h54 à Paris. Beaucoup de réactions également sur le Bénin avec ce scénario inédit dans l'histoire politique béninoise depuis 30 ans. Aucun parti de l'opposition ne prendra part au scrutin de la semaine prochaine, aux élections législatives du 28 avril. Qui avons-nous? Parce que je suis un peu perdu. Marcel, peut-être. Bonjour Marcel.
Bonjour Juan, bonjour à toute ton équipe.
Merci. Nous vous écoutons. Comment réagissez-vous donc à ce scénario inédit?
Non, moi je pense qu'il n'y a pas la volonté d'organiser des élections plurielles. Le président parle de coup d'état institutionnel s'il intervenait, mais je pense que ce sont des mots. Jusque-là, Patrice Talon a géré le pays économiquement, que beaucoup apprécient. Mais depuis quelque temps, nous rentrons dans une dérive et c'est inquiétant pour le futur.
Vous êtes inquiet pour la démocratie béninoise. En même temps, vous parlez du président Talon qui lui-même, rappelez-vous de ses propos, c'était il y a de mémoire un peu plus d'un mois, il a dit « je suis mal à l'aise avec cette situation, mal à l'aise avec l'absence de l'opposition à un scrutin ».
Mais il a la possibilité d'y remédier. Malheureusement, il ne le fait pas. Il parle de ne pas faire un coup d'État institutionnel.
Vous faites référence à ceux qui lui demandent de prendre une ordonnance. Lui dit, si je prends une ordonnance en m'appuyant sur ce fameux article 88, je violerai la Constitution, donc ce serait un coup d'État. Que dit l'article 88 en deux mots? Il dit, oui, le président peut prendre une ordonnance si les institutions de la République sont menacées. Elles sont menacées ou pas, selon vous?
Oui, elles sont menacées. Ah bon. Menacées.
En tout cas, ce n'est pas le point de vue du président. Si l'indépendance de la nation est menacée, pour le coup, elle n'est pas menacée, l'indépendance.
L'indépendance de la nation n'est pas menacée, mais il peut y avoir des troubles quand on empêche l'opposition de se présenter aux élections. Depuis 90, nous sommes dans une démocratie paisible, ce qui lui a permis d'aller au pouvoir. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, lui prend le pouvoir, la première élection qu'il organise, l'opposition n'y sera pas?
Ouais, bah en tout cas, hier, l'ancien président béninois Boni Yayi a pris la parole. Il a demandé au président Talon la suspension du processus électoral en cours. Il lui a demandé, je reprends les propos de l'ancien président, d'arrêter de s'entêter. Voilà, s'entêter, c'est détruire notre héritage démocratique, c'est inaugurer un cycle de violence inutile, a-t-il dit hier en conférence de presse. On va terminer avec des réactions sur Notre-Dame de Paris. Ambroise, bonjour.
Oui, bonjour, Juan Gomez.
Vous êtes diacre du diocèse de Créteil et oui. Vous disiez au Standard être profondément meurtri par cet incendie.
Oui, vraiment profondément meurtri. Je ne suis pas le seul. Je crois que toute la communauté chrétienne catholique de l'Île-de-France l'est autant que moi.
Oui, enfin de l'Île-de-France, de la France entière, du monde entier, quand on voit le nombre de réactions, et au-delà de la communauté catholique.
Dans la communauté catholique de ce que nous appelons l'Église universelle est meurtrie par ce que nous avons vu lundi, pour plusieurs raisons. Moi, la première, c'est que tous les diocèses que nous appelons dans le jargon catholique des portions de l'Église universelle implantées quelque part, et notamment Créteil, ont un lien fraternel fort avec le diocèse de Paris. Parce que d'abord, nous appartenons tous à la même province apostolique. Et puis, il faut savoir que tous les prêtres qui ont été ordonnés dans les années 60 et avant 60 ont été ordonnés dans le à la cathédrale Notre-Dame de Paris et envoyés à ce qu'on appelle aujourd'hui des diocèses de l'Île-de-France.
Ouais. Alors Ambroise, restez là, ne bougez pas. Gerbeau nous a contacté de Douala. Bonjour Gerbeau.
Oui, bonjour Juan Gomez.
Bienvenue. Vous avez deux petites minutes, mais vous aviez envie de pousser un coup de gueule ce matin.
Oui, juste dire que concernant ce qui est arrivé à la cathédrale Notre-Dame de Paris, je suis tout à fait compatissant pour les croyants catholiques, les chrétiens catholiques, mais je suis plutôt un peu surpris de la réaction ou de la mobilisation mondiale autour de l'effondrement de cet édifice, que je respecte puisque c'est un patrimoine culturel. Mais compte tenu des réalités auxquelles on fait face actuellement, le monde, l'Afrique, et surtout parce que je vois en France, les chefs d'État d'Afrique, qui prennent déjà des positions pour émettre leur volonté à contribuer à reconstruire l'édifice, mais je me pose des questions.
Ouais.
Qu'est-ce
oui.
qui est plus urgent actuellement?
Vous dénoncez la réaction des chefs d'État africains qui, très vite, certes, ont fait part de leur condoléance et de leur réaction d'émotion. Je pense au président du Burkina Faso, de Macky Sall, même le président Paul Biya qui a exprimé sa réelle émotion. Mais vous vous dites, pourquoi une telle réaction alors que lorsqu'il se passe des choses tragiques sur notre continent, il n'y a pas de réaction aussi rapide et aussi forte des dirigeants africains. C'est ça.
Tout à fait, Juan Gomez, tout à fait.
Bon, je vous interromps.
Comment interpréter ça?
Comment interpréter ça? Vous posez la question. Si tous ceux qui nous écoutent souhaitent réagir, eh bien qu'ils le fassent dès maintenant sur la page Facebook de l'émission. Le débat se poursuit. N'oubliez pas, la semaine prochaine, mercredi et jeudi prochain, RFI à Abidjan avec Caroline Paré qui est là et qui me déconcentre un tout petit peu. On sera ravis évidemment de vous rencontrer et de faire des émissions avec vous en public à l'IMJS. Et lundi, on parlera évidemment de Mali et de la situation politique. Caroline.